Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum.
Bonjour tout le monde. Donc c'est un plaisir pour moi d'accueillir David Robichaud pour cette conférence du département de philosophie. C'est un plaisir d'autant plus grand que David est un produit local, si je peux m'exprimer ainsi. David a fait son BA et sa maîtrise ici, ensuite fait son doctorat en co-tutelle entre l'Université de Montréal et l'Université catholique de Louvain. Sa thèse portait sur la justice linguistique. Elle a été dirigée de main de maître. Je pense qu'on peut dire ça sans aucune hésitation. Et depuis maintenant 2 ans?
C'est la troisième, oui.
Depuis 2 ans et, et demi, David est professeur au département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Et le titre de sa conférence aujourd'hui sera « Confiance et raison d'agir entre moralité et rationalité ». Alors, tu connais sans doute les us et coutumes. Tu parles pendant le temps que tu veux, en autant que le temps que tu veux ne soit pas plus qu'à peu près
45 minutes.
Oui, quelque chose dans ces eaux-là. Et ensuite, les questions fuseront de toutes parts.
Parfait. Ben, merci à tous d'être ici. Je remercie aussi M. Piché de m'avoir invité, ainsi que tous les autres membres de la faculté qui ont peut-être eu un mot à dire ou une suggestion à faire pour ma venue. Je vais en fait présenter une partie d'un projet de recherche en cours sur lequel je travaille déjà depuis quelques années. J'avais commencé à travailler là-dessus de façon extensive pendant ma thèse de doctorat, justement, dirigée entre autres par Daniel, qui porte sur la confiance, en fait, surtout la confiance sociale, confiance, disons, interindividuelle là, à l'intérieur de la société. J'étais condamné, en fait, à travailler sur ce thème-là éventuellement parce que j'ai des intérêts de recherche qui portent sur le contractualisme hobbesien défendu à la Gautier, aux grandes dames de certains, et qui vise, en fait, à démontrer qu'il est possible de faire découler des devoirs moraux de la rationalité instrumentale individuelle. Le problème, c'est que pour qu'il soit avantageux pour l'individu de respecter des devoirs moraux, il faut qu'on soit capable de déterminer si on est en présence de personnes qui elles aussi respectent leurs devoirs moraux, ou si au contraire, on est en présence de ce qu'on appelle des free riders, ou des gens qui, justement, maximisent leur utilité directement sans se soucier des normes morales. Donc, en fait, la confiance dans ce débat-là peut représenter, justement, une voie d'accès intéressante, justement, pour permettre d'expliquer comment des individus peuvent, non pas être complètement dans le noir au moment de savoir si on est en présence de quelqu'un de sincère ou non. Et on a en fait des données empiriques qui permettent justement de démontrer qu'on est assez efficace à dire en fait si la personne devant nous est en train de mentir ou non. L'autre intérêt de recherche en fait que j'ai, c'est sur la justice distributive et la justice donc culturelle. Et on a remarqué, en fait, par différentes études de terrain, qu'il y a énormément de difficultés, en fait, à établir des relations de confiance entre communautés, à l'intérieur de communautés qui sont hétérogènes, donc culturellement ou ethniquement. Les études ne font que démontrer, en fait, justement, des résultats de recherche. Et il y a très peu de travail qui a été fait sur une tentative d'explication, en fait, de d'où peut venir cette difficulté-là. Ce qu'on a remarqué, entre autres, c'est que la croissance économique des États où on a des communautés hétérogènes est plus faible, la confiance dans le gouvernement est plus faible, les politiques redistributives sont moins généreuses, il y a moins de coopération en général, en fait, dans les sociétés, justement, où il y a une très forte diversité. Et donc, ce projet de recherche-là aussi m'a amené à postuler qu'il y avait peut-être justement un lien au niveau de l'établissement de relations de confiance entre individus qui semblent en fait avoir plus de facilité à faire confiance à des gens qui sont semblables à eux sur une variable ou certaines variables pertinentes. Et donc, c'est la deuxième, disons, voie qui m'a amené à travailler sur la confiance. La confiance, en fait, est généralement et presque universellement célébrée là, comme étant un lien social important, comme étant un lubrifiant d'interactions sociales permettant aux individus de, justement, entrer dans des interactions qui, autrement, n'auraient peut-être pas été rendues possibles. Donc, au quotidien, en fait, on a des interactions plus ou moins importantes avec des étrangers dont on ne connaît absolument rien et on va leur faire confiance pour un paquet de trucs. On prend l'avion par des gens qui vont piloter payer l'avion qu'on ne connaît absolument pas, on ne connaît pas leur intérêt, leur identité, quoi que ce soit. On va manger dans des restos où on ne connaît personne. Donc, il y a énormément de relations de confiance, en fait, sur lesquelles repose non pas simplement notre bien-être et notre confort, mais carrément notre survie. Et donc, ces liens de confiance-là sont célébrés assez universellement par les sociologues, les économistes et les philosophes. Entre autres pour justement nous éviter d'avoir à assumer des coûts très importants, par exemple de vérification du pedigree de notre pilote, vérification du passé de notre cuisinier, etc. Donc, il y a une confiance sociale qui s'établit qui permet justement de s'éviter tous ces coûts-là et d'avoir à signer des contrats avec systématiquement tout le monde avec qui on entre dans une relation, soit marchande ou autre. Donc, ce que j'entends faire, en fait, dans cette conférence-ci, c'est assez restreint par rapport au projet de recherche en général, c'est justement d'essayer de clarifier un peu conceptuellement qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une véritable relation de confiance. Il y a, en fait, dû probablement, entre autres, à la variété des utilisations qu'on fait du terme confiance dans le langage quotidien, il y a énormément de conceptions et de propositions qui portent sur la confiance qui vont absolument dans toutes les directions. Et je vais essayer, en fait, de peut-être restreindre un peu le terrain avec des positions qui vont être tout à fait controversées, je l'espère. Mais je vais essayer, en fait, de démontrer qu'il y a deux positions majeures dans la littérature, en fait, qui posent problème. La première vise à démontrer, en fait, que la confiance est issue d'un devoir moral. Donc, on aurait un devoir moral de faire confiance à autrui. C'est une thèse qui est défendue, entre autres, par Eric Uslaner dans un livre, en fait, intitulé « The Moral Foundations of Trust », publié à Cambridge. Donc, d'une part, en fait, je vais essayer de démontrer qu'il y a un problème avec cette conceptualisation-là de la confiance comme étant un devoir moral. D'autre part, je vais aussi prendre le contre-pied de plusieurs économistes et plusieurs penseurs du choix social qui défendent l'idée selon laquelle la confiance serait ni plus ni moins que déterminée par la rationalité instrumentale, donc par le désir d'améliorer notre situation, de maximiser notre utilité individuelle. Je vais essayer de démontrer, en fait, que justement cette conception-là pose aussi problème et qu'on doit, à la limite, positionner les véritables relations de confiance à l'intérieur de ces deux extrêmes-là, c'est-à-dire le devoir moral comme devoir de faire confiance systématiquement à tout le monde et la rationalité instrumentale comme étant justement limitée aux seules interactions qui promettent un bénéfice pour l'individu qui fait confiance. Donc, tout d'abord, commençons par justement l'argument ou la thèse qui veut que faire confiance soit un devoir moral individuel. Ça peut, a priori, en fait, sembler un peu étrange de défendre cette thèse-là. On peut quand même avoir une lecture charitable du texte de Uslaner, dans la mesure où il semble effectivement y avoir quelque chose d'immoral dans le fait de dans le fait que quelqu'un ne se montre pas digne de la confiance qu'on place en lui, ou même dans le fait que quelqu'un refuse de nous faire confiance. Donc, si justement j'arrive avec mon portable et que Daniel me dit « Veux-tu que je l'apporte jusqu'au local? » et que je dis « Non, non, ça va, je vais m'en occuper moi-même », il pourrait, à juste titre, je pense, considérer que mon refus est un peu mal placé et qu'il n'y a aucune raison, en fait, que je ne place pas ma confiance en lui. Donc, il pourrait considérer justement qu'il y a quelque chose comme un tort moral qui a été causé à son endroit. Aussi, justement, on considère souvent que quelqu'un qui ne se montre pas digne de la confiance qu'on place en lui a agi d'une façon immorale. Cette idée-là est un peu plus intuitive, dans la mesure où si vous faites confiance à quelqu'un et que cette personne-là ne s'en montre pas digne, on peut considérer qu'il y a eu une faute morale posée par la personne en question. Donc, la confiance peut entretenir un lien à la moralité. La thèse de Uslaner, en fait, c'est que il y a deux types de confiance principalement. Il y a tout d'abord la confiance qu'il va appeler la confiance morale et la confiance stratégique. La confiance stratégique, c'est davantage la confiance qu'on entend dans le langage courant, c'est-à-dire qu'on va faire plus ou moins confiance à quelqu'un selon qu'on a plus ou moins espoir que notre confiance soit placée dans la bonne personne. Cependant, il va considérer cette confiance-là comme étant associée à une pensée économiste, à une pensée égoïste et stratégique, et justement considérer que c'est une confiance qui est nécessaire, mais qui n'est pas la véritable confiance dans laquelle on doit placer notre intérêt. On doit plutôt placer notre intérêt dans ce qu'il appelle la confiance morale, c'est-à-dire dans un devoir moral de faire confiance à autrui par, en fait, en raison de l'importance qu'on doit justement de l'importance morale qu'on doit accorder à chacun et qu'on doit présupposer finalement que chaque personne, a priori, est digne de confiance. On doit aussi, selon lui, en fait, avoir un optimisme justement par rapport aux interactions sociales qui vont faire en sorte que plutôt que d'arriver à reculons avec justement une évaluation stratégique postulant peut-être disons une interaction négative ou en tout cas une attitude négative de la part de la personne devant nous, on doit arriver avec une attitude positive et a priori placer notre confiance en autrui. Donc, il semble y avoir plusieurs problèmes avec une vision telle que celle-là. Tout d'abord, le premier problème qui me semble y avoir, c'est que quand quelqu'un place sa confiance en nous, la valeur de cette confiance-là découle du fait qu'elle aurait pu ou aurait pu ne pas être placée en nous. Donc, quand quelqu'un nous fait confiance, on va se sentir, disons, privilégié, ou en tout cas, on va sentir une certaine chaleur dans le geste, dû au fait qu'on considère justement que cette confiance-là aurait pu nous être refusée. De la même façon, en fait, que la reconnaissance peut avoir un effet comme celle-là ou le fait de se faire dire qu'on est très beau. Sauf que si on a un devoir moral de dire aux gens qu'ils sont beaux, ben, la valeur, justement, d'un commentaire tel que celui-là perd un peu de son aplomb. Donc, première raison qui me semble problématique, c'est celle-là. C'est peut-être la moins importante. La deuxième, en fait, c'est que la confiance ne semble avoir de valeur comme, disons, élément de la vie sociale que si elle est placée aux bons endroits. Donc, il me semble absolument incontournable de considérer la confiance stratégique comme étant bien davantage ce vers quoi on doit se tourner. Une confiance, en fait, qui est accordée a priori à chacun, peu importe les circonstances, peu importe soit nos sentiments ou notre connaissance du passé, d'interaction de cette personne-là, etc., me semble ouvrir la porte à, justement, peut-être, me semble un bon moyen de faire de la personne qui va appliquer ce type de confiance-là un soccer universel. J'ai déjà brûlé le punch auprès de certains. J'avais préparé une présentation PowerPoint qui a mal tourné, mais on y voyait, en fait, Charlie Brown en train de se préparer à botter le ballon de tenu par Lucy. Et donc, on a vu cette image-là encore et encore et encore où Lucy dit « Allez, viens Charlie Brown, je vais tenir le ballon ». Charlie Brown, en bon naïf, en fait, s'élance à chaque fois et se casse la figure, en fait, de façon de plus en plus radicale au fur et à mesure que les fois se répètent. Donc, il semble, en fait, que la proposition de Ouslaner nous invite, en fait, à considérer Charlie Brown, justement, comme un héros de la confiance dans ces situations-là, alors que au contraire, il me semble qu'on peut plutôt voir que la sonnette d'alarme, en fait, dans la tête de Charlie Brown ne fonctionne pas avec des interactions répétées et des échecs répétés dans le même contexte. Il semble assez problématique de dire que dans la situation où Lucy lui dit « viens botter le ballon », Charlie Brown aurait un devoir moral, en fait, de répéter la scène et de redonner une chance de refaire confiance à Lucy malgré leur passé d'interaction assez peu glorieux. Donc, il y a peut-être un troisième élément qui est avancé de temps en temps. En fait, ce n'est pas une position très fréquemment rencontrée, mais on peut considérer que les raisons pour lesquelles on va refuser d'accorder notre confiance à quelqu'un peuvent poser problème moralement. Donc, entre autres, justement, dans la littérature où on voit que, par exemple, dans des bureaux à majorité mâle, les hommes ont de la difficulté, en fait, à faire confiance à certaines femmes et ils vont, en fait, avoir absolument aucun argument pour justifier le fait d'avoir une confiance moindre envers les femmes. De la même façon, dans, justement, la littérature sur la confiance entre personnes d'ethnie ou de cultures différentes, il y a une culture qui est moindre, qui est souvent basée sur des préjugés, quels qu'ils soient. Donc, on peut penser à peu près à n'importe quel préjugé associé à une communauté. Pardon?
Une confiance qui est moindre, c'est ça?
Une confiance qui est moindre. Qu'est-ce que je dis?
Une culture qui est moindre.
Non, la culture reste tout à fait influable. Merci. Et donc, il y a une confiance qui est moindre dans ces contextes-là. Et on pourrait considérer justement qu'il y a un problème moral à ce qu'on refuse notre confiance sur la base de croyances qui sont justement problématiques, basées sur des préjugés, soit raciaux, soit sexistes ou autres. En fait, j'ai très peu à dire là-dessus, sinon que ça semble problématique de condamner quelqu'un moralement pour avoir une croyance, en fait, si cette croyance-là est sincère, justement, qui considère que, par exemple, telle communauté est moins digne de confiance, est plus susceptible d'être violente, est moins susceptible d'être compétente, ou peu importe. Donc, je passe très rapidement là-dessus. Mais l'argument principal me semble que de considérer qu'on a un devoir moral de faire confiance me semble manquer le bateau complètement parce que, justement, c'est le caractère conditionnel de la confiance qui en fait un outil aussi important et aussi utile dans nos interactions quotidiennes avec autrui. Donc, voilà pour la confiance comme devoir moral. Maintenant, la confiance comme comportement rationnel. Il y a énormément de présentations, en fait, de propositions qui portent sur la confiance, qui considèrent justement que la confiance est déterminée rationnellement. C'est-à-dire que, systématiquement, ce qui va faire en sorte qu'on va ou non accorder notre confiance à autrui, c'est les attentes de bénéfices, donc l'utilité attendue qu'on a dans ces interactions-là. Et on va accorder notre confiance seulement et uniquement dans les cas où on a une espérance de gain positif. Donc, finalement, on va accorder notre confiance, si c'est rationnel, entendu comme maximisateur d'utilité, de placer notre confiance en autrui. En fait, et là, c'est une proposition que je fais, il semble y avoir deux critères qui permettent de déterminer si on est dans une relation de confiance. D'une part, il semble qu'on doit avoir un intérêt à donner à autrui, en fait, le pouvoir de nous nuire. Donc, on doit avoir un intérêt à se mettre dans une position de vulnérabilité par rapport à autrui. Généralement, quand on fait confiance à autrui, c'est que, justement, on se met dans une situation où on perd le contrôle de notre côté et on met la balle, en fait, dans le camp de la personne en qui on place notre confiance. Première condition. Deuxième condition, il semble que, en fait, pour qu'on soit dans une véritable relation de confiance, il faut que la personne en qui on place notre confiance ait des intérêts qui ne soient pas identiques aux nôtres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des intérêts qui coïncident parfaitement avec les nôtres. Et je vais essayer de défendre ces deux critères-là. Donc, d'une part, en fait, c'est que si on n'a pas intérêt, en fait, à donner, justement, à se placer dans une position de vulnérabilité face à autrui, ben généralement, il n'y aura pas d'interaction qui va suivre de ça. Le seul intérêt qu'on a, en fait, à se placer dans cette position-là est lié au fait qu'on a un bénéfice à attendre d'une interaction ou d'une relation de coopération avec quelqu'un. Et s'il n'y a pas, justement, d'intérêt à attendre de cette situation-là, on ne se placera pas dans une position telle que celle-là. Le deuxième critère, en fait, qui dit qu'autrui ne doit pas avoir des intérêts qui coïncident parfaitement avec les nôtres, me semble justifié dans la mesure où, si je fais confiance à quelqu'un, par exemple, de garder le côté droit de la route, alors que moi, je conduis en sens inverse, justement, sur le côté droit de la route, il semble assez, non pas tordu, mais peut-être un peu excessif de parler d'une relation de confiance entre conducteurs. De la même façon qu'il semble un peu excessif de parler d'une relation de confiance envers, par exemple, les autres piétons sur la route pour ne pas me faire de croque en jambe ou ne pas me frapper au visage quand je marche sur un trottoir. La raison est simple, c'est qu'en fait, on a, généralement parlant, des intérêts qui convergent, c'est-à-dire tout le monde préfère garder la droite pour atteindre son objectif le plus simplement et le plus sécuritairement possible. Et les piétons ont aussi le même objectif, c'est-à-dire de passer d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus sécuritairement possible. Évidemment, ce qui peut pousser à critiquer une vision comme celle-là, c'est l'idée que tout le monde a avantage, en fait, à profiter de relations de confiance très riches. Donc, évidemment, s'il n'y avait pas de bénéfice qui découlait de la relation de confiance, ben, il n'y a personne qui s'engagerait dans ces relations de confiance-là. Donc, quelqu'un pourrait dire, c'est tout à fait rationnel, en fait, de s'engager dans une relation de confiance, considérant les bénéfices attendus de cette interaction-là. Le problème, en fait, c'est que dans les relations de confiance qui sont à double sens, on se retrouve, en fait, exactement dans une structure de type dilemme du prisonnier. Donc, en fait, il est tout à fait vrai, par exemple, pour ceux... Est-ce que tout le monde connaît un peu le dilemme du prisonnier? Grosso modo. Donc, dans le dilemme du prisonnier, en fait, on met deux prisonniers dans la même situation, c'est-à-dire on leur demande, est-ce que vous acceptez de coopérer avec les policiers et de dénoncer votre collègue ou est-ce que vous décidez de garder le silence? Si vous décidez tous les deux de garder le silence, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Chacun a 3 ans de prison. Donc, c'est une situation qui est meilleure que si les deux se dénoncent ou on leur donne 7 ans chacun de prison. L'astuce, en fait, du côté des policiers, c'est qu'on donne la possibilité à ces deux prisonniers-là, s'ils sont le seul à dénoncer, d'avoir une seule année de prison et de donner 10 années de prison à l'autre personne. Donc, généralement, en fait, quand on présente ce cas-là à des personnes qui n'ont jamais été en contact avec le dilemme du prisonnier, on leur demande quelle est la meilleure option. Rationnellement, les gens vont dire, rationnellement, ils devraient ne pas dénoncer parce que ça leur donne 3 années de prison au lieu de 7 ou 10. Malheureusement, en fait, la structure de l'interaction est faite de sorte à ce que, rationnellement, d'un point de vue individuel, chacun a intérêt, si tout ce qui l'intéresse, c'est son utilité personnelle, à dénoncer la personne qui se trouve justement son complice. Donc, on se retrouve avec un dilemme dans le sens où, si tout le monde était capable de s'entendre sur une stratégie collective, les deux préféreraient avoir 3 ans chacun. Malheureusement, quand on est dans une stratégie individuelle, on est condamné en fait à se retrouver, si les deux agissent rationnellement, dans une situation où les deux ont 7 ans de prison. Donc, si intuitivement, le fait d'entrer dans une relation d'interaction peut sembler être avantageuse pour la personne qui accepte d'entrer dans cette relation-là, il n'en va pas du tout ainsi à partir du moment où on comprend correctement quelle est la structure de l'interaction et comment fonctionne justement la rationalité instrumentale d'un des individus. Donc, quand on analyse la situation correctement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il ne peut jamais être pleinement rationnel pour la personne qui place sa confiance en autrui de justement placer cette confiance-là, parce qu'en aucun moment, en fait, on peut être assuré de, disons, la sincérité ou du fait qu'on place notre confiance sur une personne qui en est digne. Donc, simplement pour faire justice à ce courant-là qui est excessivement riche, en fait, et qui rejoint à peu près tous les économistes qui ont traité de la question de la confiance, il y a une place fondamentalement importante qui est accordée à la rationalité instrumentale dans l'évaluation de, à savoir si on devrait faire confiance ou non à quelqu'un. Donc, évidemment, on va faire davantage confiance à quelqu'un avec qui on a eu un passé d'interaction positif, qui a une réputation irréprochable, qui nous envoie des bons signaux, en fait. Donc, il y a une quantité de signaux qu'on est capable de percevoir de façon consciente ou inconsciente. Donc, que ce soit le rythme cardiaque, en fait, avec les rougeurs, le fait d'avoir une respiration irrégulière, des sautillements de l'œil, etc. Étrangement, en fait, on est, semble-t-il, capable de percevoir certains de ces signaux-là qui permettent plus ou moins, justement, d'avoir une idée plus ou moins claire, c'est-à-dire du fait que quelqu'un est plus ou moins digne de confiance. De la même façon, on va être beaucoup plus porté à faire confiance à autrui si c'est pour une banalité que si c'est pour prendre soin de notre enfant qu'on doit laisser sans surveillance pour une urgence ou quoi que ce soit. Donc, plus on va avoir à perdre, moins on va être susceptible de placer notre confiance en quelqu'un. Évidemment, comment on va faire ces calculs coût-bénéfice-là et ces calculs de risque-là? Ben, c'est avec, justement, le recours à notre rationalité instrumentale. Donc, les défenseurs de cette position-là ont raison pendant un bon bout de temps. Le problème, c'est quand ils nous disent que, rationnellement, on peut se retrouver dans des situations où nous sommes assurés de retirer des bénéfices d'une interaction basée sur la confiance. Le problème, en fait, c'est qu'on ne peut jamais avoir cette assurance-là, cette garantie-là que, justement, autrui va coopérer de façon attendue. Et donc, tant qu'on n'a pas une garantie à ce niveau-là, on ne peut pas considérer qu'il est rationnel pour un individu, pleinement rationnel, d'agir sur la base d'une relation de confiance. Donc, rapidement, je voudrais éliminer, en fait, 3 types de confiance qu'on fonde généralement sur la rationalité instrumentale et que je vais plutôt, en fait, appeler attente légitime, donc ce que certains en anglais appellent « expectations ». Il y a des types de relations, en fait, ou des types de jugements qu'on va porter, qu'on va appeler des relations de confiance, alors que si on y réfléchit un peu, elles n'en sont pas. Donc, la première, en fait, c'est la confiance en des objets. Donc, quelqu'un qui dit « j'ai confiance en ma voiture pour m'amener de Montréal à Québec », en fait, cette relation-là ou ce jugement-là est en rien une relation de confiance, c'est simplement qu'on a des attentes légitimes envers notre voiture qu'on connaît bien parce qu'on l'a entretenue ou peu importe, et on va poser un jugement par rapport à cette voiture-là, mais c'est impossible pour la voiture de se montrer plus ou moins digne de confiance, et donc on n'a pas une relation qui est basée sur la confiance, on a une relation on a des attentes légitimes en fait par rapport à cette voiture-là. De la même façon, quand on dit « j'ai confiance en mon médecin pour mener à bien l'opération », dans un sens, il y a une relation de confiance, dans l'autre sens, il n'y en a pas. Si on parle des compétences de ce médecin-là, on ne se retrouve pas dans une relation où on place notre confiance dans le médecin parce que le médecin ne peut pas s'avérer digne de confiance ou indigne de confiance selon qu'il a ou non les compétences. Donc, si on place notre confiance dans ses compétences, on ne semble pas être dans une relation qui est propre à proprement dit, qui est proprement dite une relation de confiance. Ça semble être davantage basé sur des attentes légitimes dans la capacité ou dans les compétences, justement, de ce médecin-là. On peut, par contre, avoir une relation de confiance envers lui par rapport à l'attention qu'il va accorder à notre cas, par rapport à, justement, le soin qu'il va prendre à être en forme, à, justement, performer l'opération d'une façon irréprochable, etc. À ce niveau-là, on peut avoir une relation de confiance dans la mesure où cette personne-là peut ou peut ne pas se montrer, justement, digne de la confiance qu'on place en lui. Maintenant, deux derniers types de confiance qui, justement, peuvent peut-être poser problème parce que c'est souvent des relations qu'on va considérer, justement, comme étant des relations de confiance tout à fait régulières, alors que, selon les deux critères que j'ai présentés, elles n'en sont pas. La première, en fait, c'est d'avoir confiance en quelqu'un qui a des intérêts d'agir de la façon attendue. Donc, qui serait incité de façon externe. Donc, par exemple, si je me place avec beaucoup de compassion envers Charlie Brown à côté de Lucie armée d'une arme et que je lui dis « Tu tiens le ballon et si tu le retires, en fait, les conséquences seront funestes », ben en fait, Charlie Brown n'a plus avoir de relation de confiance envers Lucie. Il peut simplement avoir des attentes légitimes dans la mesure où Lucie a tout intérêt, malgré l'humour noir qu'elle semble apprécier justement à retirer le ballon, elle a, à partir de ce moment-là, tout intérêt à agir de la façon attendue. Donc, dans des cas un peu moins extrêmes et n'impliquant pas justement d'armes à feu, quand on sait qu'une personne a intérêt, soit parce qu'il y a une surveillance policière, soit parce qu'il y a justement un contexte social qui va désapprouver un comportement particulier, on peut s'attendre de façon assez précise à ce qu'une personne agisse d'une façon ou n'agisse pas d'une façon qui serait considérée soit désirable ou indésirable. Donc, de dire que ces moments-là sont fondés sur une relation de confiance, de dire que je place ma confiance en autrui et que cette relation-là va avoir une influence dans la situation, semble relativement faussé dans la mesure où il semble que la relation de confiance ne joue absolument aucun rôle dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, ça, c'est pour ce qu'on pourrait appeler des incitatifs externes. On peut aussi imaginer des incitatifs internes. Et là, en fait, je m'attaque à probablement la théorie la plus communément citée, celle de Russell Hardin. Russell Hardin a une définition de la confiance comprise comme étant ce qu'il appelle de l'encapsulated interest, c'est-à-dire que si j'accepte de vous faire confiance, c'est que je sais que quelque part dans votre intérêt, vous avez à cœur mon intérêt personnel. Donc, jusqu'à un certain point, si j'accepte de vous faire confiance, c'est que je sais que vous avez intérêt à respecter la confiance que je place en vous, à me respecter comme personne ou en tout cas à agir d'une façon attendu d'une façon qui va être fidèle à la relation de confiance dans laquelle on se trouve. Ce qui est étrange, en fait, c'est que Hardin lui-même reconnaît la valeur, en fait, de l'argument que je faisais plus tôt sur la coïncidence d'intérêt. Hardin va dire, si deux individus ont une coïncidence d'intérêt, on ne peut pas considérer qu'ils ont besoin d'une relation de confiance pour que l'un agisse de la façon attendue par l'autre. Ce qui est étrange, en fait, et il donne, par exemple, justement, l'exemple de la conduite à droite sur la route. Ce qui est étrange, c'est qu'avec le concept de encapsulated interest, il semble y avoir exactement la même structure, c'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un intérêt qui est identique dans les deux acteurs qui va déterminer si oui ou non la personne est susceptible de se montrer digne de confiance. Et ça me semble un peu étrange, en fait, d'accepter l'idée que s'il y a coïncidence d'intérêt, il ne peut pas y avoir relation de confiance, alors que dans une situation de confiance régulière, il doit y avoir, dans l'intérêt de la personne en qui on place notre confiance, une place accordée à notre propre intérêt. Donc, je place en fait cette théorie-là ou cette proposition-là dans la catégorie justement de ce qu'on pourrait appeler des attentes légitimes. À partir du moment où on est convaincu du fait que la personne en qui on place notre confiance a à cœur notre intérêt, il semble que la relation de confiance devient secondaire dans l'interaction et que c'est bien davantage justement la richesse de la relation qui nous unit à cette personne-là qui va jouer le rôle de motivateur dans le fait d'agir de la façon convenue, de la façon attendue. Voilà, ça peut être soit des relations où il y a justement de l'intérêt encapsulé ou des relations, par exemple, amoureuses ou des relations très riches. Certains vont défendre l'idée justement que dans une relation amoureuse, Williams, entre autres, va défendre l'idée selon laquelle il y a seulement dans des relations, ce qu'on appelle des relations denses, des thick relationships, où on peut retrouver quelque chose comme des relations de confiance. Donc, c'est seulement avec des relations amoureuses, des relations d'amitié, des relations très chaudes, finalement, où on va pouvoir parler de véritable confiance. En fait, ça me semble être complètement à l'opposé. Et là, peut-être que je me trompe sur toute la ligne. En fait, c'est très intuitif, justement, cette partie-là de l'argument. Mais il me semble, justement, que dans ce type de relation-là, la confiance joue un rôle très secondaire ou très ponctuel. Et la majorité de nos interactions vont être basées non pas sur la confiance que l'autre nous porte, mais bien plutôt sur, justement, le sentiment amoureux qui nous unit. Et ça me semble justement beaucoup plus intéressant de poser la question de comment peut-on expliquer toutes ces relations de confiance entre purs étrangers qui sont observables, en fait, qui sont justement concrètes, réelles, pour lesquelles on a un paquet de données et pour lesquelles on n'a aucune espèce d'explication, même de semblant de début d'explication, sinon justement certaines qui sont basées sur l'attente de bénéfices, comme justement qui voient la relation de confiance comme étant une simple relation basée sur la maximisation de l'utilité et l'avantage mutuel. Donc, juste une précision, en fait, pour parce que probablement que j'ai parfois dit, dit quelque chose que je ne veux pas dire. Je ne suis pas en train de dire que, quand je dis que ce ne sont pas des relations de confiance, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de confiance, par exemple, à l'intérieur justement d'un couple et que cette confiance-là ne joue aucun rôle. Ce que je défends, c'est l'idée que, au niveau de la motivation du comportement, ces relations-là ne joueront à peu près aucun rôle dans la plupart des interactions. Évidemment, il va y avoir des cas, par exemple, on peut faire plus ou moins confiance à notre conjoint-conjointe au niveau de la fidélité, etc. Mais pour prendre soin des enfants, pour justement avoir une attitude positive dans le couple, peu importe, la relation de confiance semble être à tout le moins secondaire, justement, par rapport à d'autres relations qui sont, à mon sens, beaucoup plus riches, beaucoup plus fécondes et beaucoup plus stables, telles que, justement, les sentiments amoureux ou autres. Voilà pour les deux arguments. Je vais terminer rapidement, en fait, parce qu'il y a une confusion qui est souvent faite aussi entre faire confiance et se montrer digne de confiance. Donc, plusieurs personnes vont, lorsqu'elles condamnent moralement le fait de, d'avoir des relations de confiance qui ne fonctionnent pas ou qui sont violées, dans le fond, on va condamner la confiance, alors que ce qu'on devrait condamner, c'est davantage le fait de se montrer indigne de la confiance qui a été placée en nous. Donc, encore une fois, il y a deux types de propositions qui sont faites. La première voulant que le fait de se montrer digne de confiance soit un devoir moral. Donc, à partir du moment où quelqu'un a placé en nous sa confiance, on a un devoir moral, en fait, de se montrer digne de cette confiance-là. La deuxième est, en fait, l'équivalent du premier argument, c'est-à-dire que se montrer digne de confiance serait fondé dans la rationalité instrumentale. Donc, une fois que la confiance est placée en nous, on aurait quelque chose comme un devoir, non pas moral, mais si quelqu'un désire maximiser son utilité, on aurait un devoir, en fait, d'agir de façon à se montrer digne de cette confiance-là. Donc, du point de vue de la rationalité, en fait, qu'on aurait un devoir rationnel, si on veut, de se montrer digne de confiance, encore une fois, la même erreur semble être posée qu'auparavant. On va souvent dire, par exemple, qu'on a tout intérêt à se montrer digne de confiance parce que notre réputation va en bénéficier. On va bénéficier justement d'une interaction, d'une historique d'interaction positive qui va faire en sorte que, dans le futur, les gens vont être d'autant plus portés à faire avec nous, à justement interagir avec nous, à nous faire bénéficier de certaines interactions mutuellement avantageuses auxquelles on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas été justement une personne avec une bonne réputation, avec une certaine disposition, en fait, à agir de façon à se montrer digne de confiance. Le problème, en fait, c'est que, de la même façon que tout à l'heure quand on parlait du dilemme du prisonnier, ce n'est pas rationnel d'agir de façon coopérative. Dans ce cas-ci, en fait, c'est conditionnel, en fait, à des attentes à avoir d'autres interactions dans le futur. Donc, le fait de maintenir une bonne réputation est sans aucun doute un avantage gigantesque, en fait, dans justement un contexte social où notre avantage ou notre bénéfice découle en grande partie d'interactions avec autrui. Cependant, tout ça est conditionnel à l'attente d'avoir des interactions avec des gens qui vont d'une part connaître cette réputation-là et qui vont accorder une importance à cette réputation-là. Donc, dans des contextes où on est incertain, par exemple, justement, du nombre d'interactions qui viennent dans le futur, ce qui est généralement le cas quand on interagit avec des gens dans des restos, des pilotes d'avion, des chauffeurs d'autobus, peu importe, généralement, on n'a aucune idée, justement, de ce qui nous attend dans le futur. Et il ne semble pas vrai de dire que chaque individu a un intérêt rationnel à se montrer digne de la confiance placée en eux parce que il y a toutes les chances, en fait, que cette information-là ne soit jamais disponible à une autre personne qui va avoir un intérêt à coopérer, en fait, avec cette personne-là. Deuxième point, se montrer digne de confiance comme devoir moral. En fait, c'est probablement le seul endroit où il y a, sans aucun doute, une motivation morale, en fait, qui intervient dans la relation de confiance. À partir du moment où, justement, on a passé une entente, où je vous ai confié un secret et je vous ai demandé de me promettre de ne pas en parler, vous avez probablement une motivation morale, en fait, à maintenir, à demeurer discret, en fait, et à garder ce secret-là pour vous. La question que je pose, qui est encore une fois très intuitive et ouverte aux critiques et à tout ce qui peut les accompagner, c'est que, en fait, il n'y a absolument rien qui est ajouté d'un point de vue moral du fait que la personne nous fait confiance ou pas. Dans cette situation-là, en fait, la confiance semble jouer un rôle au niveau de transformer une situation qui serait irrationnelle si on l'analysait en pur terme de rationalité. Et la confiance semble nous faire justement faire le petit bout de chemin supplémentaire qui nous permet d'agir de façon légèrement irrationnelle afin de se libérer d'un secret trop lourd à porter, afin de justement trouver de l'aide pour prendre soin des enfants, afin de entrer dans une interaction qui va s'avérer, souhaitons-le, mutuellement avantageuse. La question que je pose, c'est est-ce qu'il y a effectivement une modification de la relation qui nous unit à la personne à partir du moment où on place notre confiance en elle? Est-ce que, au contraire, la relation morale, disons les raisons qui vont faire en sorte que vous allez peut-être être motivé par des arguments moraux à garder ce secret-là pour vous, est-ce que c'est pas plutôt le fait de m'avoir promis de garder le secret pour vous? Et justement, est-ce que ça, c'est pas tout ce qu'il y a à dire justement au niveau de la moralité de l'interaction ou de l'entente qu'on a passée ensemble? Donc, la question que je pose et que je reformule, est-ce que le fait que quelqu'un place sa confiance en nous augmente, si on veut, le devoir moral qu'on a d'agir de la façon convenue et de la façon attendue par la personne qui justement a placé sa confiance en nous? Donc, je m'arrête là-dessus. Donc, en fait, en conclusion, la confiance semble être un sentiment fondé en partie justement sur des aspects cognitifs, donc de connaissance, de réputation, de connaissance du passé historique, de l'historique d'interaction des gens, etc. Et en partie un simple justement sentiment, feeling qui peut être lié, comme je le disais tout à l'heure, à la perception de certains signaux qui nous proviennent à un niveau inconscient, donc la perception justement qu'il y a quelque chose de louche avec une personne. D'ailleurs, on fait beaucoup référence à ce genre de truc-là dans ce bouquet-là qui est par ailleurs fascinant. C'est une étude qui a été faite sur des chauffeurs de taxi à Belfast et à New York où on a essayé de savoir en fait quel était le secret des chauffeurs de taxi pour éviter de se retrouver dans des situations pénibles, soit de gens qui font simplement partir à courir et ne paient pas, ou pire en fait dans des situations où il y a carrément des agressions armées qui sont faites envers eux. Et c'est assez fascinant, en fait, disons, l'aptitude de ces personnes-là à distinguer entre les personnes qui sont susceptibles de qui sont en train de leur mentir ou qui manquent de sincérité et, justement, leur capacité à éviter de se retrouver dans des situations complètement problématiques, alors que souvent, ils n'ont absolument aucune capacité d'exprimer quel était exactement le truc qui leur a semblé louche, mais ils ont eu raison à plusieurs reprises. En fait, il y a plusieurs exemples où des chauffeurs de taxi ont simplement sorti de la voiture et se sont éloignés et ils ont appris en fait que les deux types qui étaient montés avec eux avaient commis d'autres agressions plus tard dans la journée. Donc, ça fait partie en fait des connaissances sur lesquelles on peut fonder notre confiance. Sauf que la confiance semble en fait intervenir justement, comme je le disais tout à l'heure, pour transformer des relations qui, si on ne se fiait qu'à notre rationalité instrumentale, seraient considérées comme indésirables ou en tout cas comme inintéressantes dans la mesure où on n'aurait pas de confirmation ou d'assurance que cette interaction-là peut amener des bénéfices. Et elle semble, de l'autre côté, opérer en deçà, en fait, de ce qu'on pourrait appeler un devoir moral de faire confiance. Donc, on semble faire confiance beaucoup plus souvent que si on était simplement dirigé par notre rationalité instrumentale, parce que dans la plupart des cas, en fait, les gens à qui on va faire confiance, on n'a aucune garantie ou aucune assurance que cette interaction-là va mener à quelque chose de positif. Mais on fait beaucoup moins confiance que si on était dirigé par un devoir moral, justement, de faire confiance à autrui. Et je pense qu'il en est très bien ainsi. En fait, je n'irai pas jusqu'à défendre quoi que ce soit qui viserait à augmenter le nombre de relations de confiance pour s'approcher de quelque chose comme un devoir moral. Et je ne voudrais pas non plus qu'on réduise la quantité d'interactions, parce que chaque interaction mutuellement avantageuse qui est évitée, en fait, ne produit aucun bénéfice justement pour les différents individus qui sont impliqués dans cette relation-là. Ça fait combien de temps que je parle? J'ai 40 minutes. Donc, je vais prendre 2 minutes supplémentaires. Parfait. En fait, simplement, pour peut-être faire boucler la boucle et revenir un peu à ce que ces distinctions-là m'ont permis de faire, entre autres, de corriger une erreur que j'allais moi-même faire. Ça, c'est génial, en fait, quand on se corrige soi-même. Donc, on évite d'impliquer des gens là-dedans. C'est que j'avais proposé, en fait, dans un texte qui était malheureusement fini, une solution, en fait, pour différentes communautés, justement, qui veulent maximiser la confiance interindividuelle afin d'arriver à des relations de coopération plus riches et, entre autres, arriver à se doter d'institutions redistributives plus généreuses, de se doter, de, par exemple, de systèmes de santé universels, etc., qui sont malheureusement rendus impossibles par l'absence de confiance entre différentes communautés. Donc, souvent, on interroge les gens sur qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas confiance dans le système, et la réponse est que ce n'est pas tellement le système en lequel ils n'ont pas confiance, c'est plutôt les bénéficiaires qui sont jugés comme étant des abuseurs de système, etc., qui peuvent soit être limités à une communauté, par exemple, bon, on va dire, les nouveaux arrivants sont des abuseurs de système, blablabla, et c'est ça qui va justifier de retirer la confiance dans le système de redistribution. J'ai perdu le début de mon point. Mais donc, en fait, une des solutions qui me semblait possible pour régler en partie ces problèmes-là, c'était d'augmenter les coûts liés à des comportements déviants. Donc, je me disais, à partir du moment où on rassure les personnes qui manquent de confiance en leur disant il va y avoir très peu d'abus parce que nous serons absolument intraitables dans ce domaine-là, en fait, on va pouvoir justement ramener la confiance de ces personnes-là et rétablir quelque chose comme des croyances justes. Parce que la plupart de ces croyances-là sont complètement faussées et n'ont rien d'ancré en fait, dans la réalité. Donc, simplement de durcir le ton aura à peu près pas d'impact, en fait, justement, dans la réalité au niveau de, justement, stigmatiser une communauté ou peu importe. Et ça pourrait permettre d'éliminer certaines croyances, certains préjugés ou certains stéréotypes. Le problème, en fait, c'est que la distinction que j'ai établie entre la confiance comme rationnelle et la confiance comme morale a été un peu étudiée, en fait, par différents économistes en économie expérimentale. Et ce qu'on a démontré, en fait, c'est que à partir du moment où on transforme une relation de confiance considérée comme étant justement une relation de confiance où la personne n'a pas de possibilité de se venger ou de revenir contre la personne qui s'est montrée indigne de confiance, à partir du moment où on modifie la donne en mettant des incitatifs sous forme de justement coûts ou de bénéfices, ben en fait, la considération d'agir de façon bien ou mal en se montrant digne ou indigne de confiance est généralement levée. Donc, par exemple, justement, si on récompense des médecins pour une bonne conduite ou pour un bon travail et qu'on les punit pour un mauvais travail, la considération d'avoir un devoir de se montrer justement digne de la confiance que les patients placent en eux était à toute fin pratique levée et on avait une approche beaucoup plus marchande en fait. Donc, on était soumis davantage à des normes de marché qu'à des normes justement de confiance ou à des normes qu'on pourrait considérer comme étant des normes morales. Donc, ça me semble important en fait justement de poursuivre ce travail-là pour ne pas proposer quelque chose qui va avoir un backlash radical, c'est-à-dire si on propose justement de modifier la donne et de modifier le niveau de confiance en modifiant les coûts et les bénéfices associés à certains comportements, il se pourrait justement que la confiance ne soit pas promue, mais au contraire diminuée et qu'on retombe et qu'on tombe dans des interactions ou dans des relations qui vont être davantage basées dans une logique de coûts-bénéfices, c'est-à-dire que au lieu de se retenir d'agir de façon déviante parce qu'on est conscient que c'est mal, on va se retenir d'agir de façon déviante, mais seulement dans les circonstances où on est où on a des chances de se faire prendre, et dans les occasions où on n'aura pas de chance de se faire prendre, on va être beaucoup moins enclin en fait à agir de la façon attendue de nous, ou de la façon considérée comme étant la façon morale ou la bonne façon d'agir. Merci. Merci beaucoup.
Alors, le bal des questions est ouvert.
Oui, merci. Bon, je vais revenir sur les deux termes, là. Disons, on va employer l'expression confiance morale et confiance rationnelle ou confiance instrumentale, ou je ne sais plus comment on pourrait... Alors, mon problème, essentiellement, c'est qu'il y en a une qui me semble normative, alors que l'autre est purement descriptive. C'est-à-dire que la confiance instrumentale, à la rigueur, je peux parler de confiance dans la mesure où je décris comme étant de la confiance des résultats d'une coopération dont la motivation n'est pas nécessairement la confiance. Donc, si je comprends bien ton propos, ce qu'on pourrait appeler la confiance suite à une rationalité instrumentale, à la rigueur, les intérêts remplacent, la coopération des intérêts remplace la confiance, et ce n'est que dans un deuxième temps que je peux décrire la relation qu'il y a eu comme une relation de confiance, alors que la motivation, elle, n'est pas de l'ordre de la confiance. Donc à la rigueur, cette première thèse, la thèse instrumentale, le vocabulaire de la confiance devient complètement superflu. C'est-à-dire on peut l'enlever. Le problème avec la confiance dite morale, c'est que on voit les intérêts, on voit le caractère normatif au sens où on voit l'obligation. On ne voit pas exactement en quoi c'est de la confiance, dans la mesure où avoir un devoir à l'égard de la confiance qui m'est faite n'explique pas pourquoi on m'a fait confiance. C'est-à-dire, je peux, à moins qu'on tombe encore une fois dans un calcul d'échange d'intérêts. D'accord ? Autrement dit, je te fais confiance parce que tu as un devoir, mais donc, autrement dit, c'est que je n'ai absolument aucune relation gratuite par rapport à toi, alors que normalement, il y a l'élément de la gratuité. C'est-à-dire, si je te fais confiance, c'est que, en réalité, je n'ai rien à te proposer en échange de ma confiance. Donc je mets quand on dit faire confiance, par exemple, je mets ma tête sur le bio, c'est vraiment à prendre au sens littéral, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien à t'offrir en échange. Alors que s'il y a l'assurance que le devoir sera respecté, là, peut-être je peux compter sur le devoir moral, mais ça ne veut pas dire que j'ai confiance à l'égard d'un devoir moral, mais je n'ai pas confiance à l'égard de la personne en particulier. Donc là, il y a quelque chose qui me semble manquer, c'est-à-dire que d'un côté, au moins, j'ai une interrelation, c'est-à-dire dans la confiance instrumentale, c'est-à-dire qu'à la fois, je vois les motivations des deux agents, celui qui fait confiance et celui qui reçoit la confiance. C'est une motivation d'intérêt, mais qui n'a plus rien à voir avec la confiance. Et dans l'autre cas, on voit la thèse normative qui consiste à l'obligation de répondre correctement aux demandes de confiance qui sont faites. Et on ne voit pas quelle est la motivation de l'agent à faire confiance.
Oui, tout à fait. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le premier point que quand on est dans une relation purement basée sur l'intérêt, le terme de confiance, en fait, peut encore avoir justement une utilité dans le langage quotidien, mais en termes conceptuels, en fait, je pense qu'on n'est plus du tout dans une relation de confiance. De l'autre côté, je pense qu'on fait l'erreur inverse, en fait, où justement on dénature complètement, ou même en fait on élimine à la limite l'utilité d'avoir recours à un concept tel que le concept de confiance, où justement la seule chose qui peut être intéressante dans le concept de confiance, c'est l'idée de motivation, en fait. C'est l'idée de pourquoi est-ce que des individus qui ne se font pas confiance, justement, vont avoir des comportements différents. De dire on a un devoir moral de placer notre confiance en autrui, et éventuellement un devoir moral de se montrer digne de cette confiance-là, à la limite, encore une fois, on peut supprimer complètement le discours de la confiance et s'en remettre purement et simplement à un discours normatif du devoir envers autrui, de respect, par exemple, de la dignité de la personne devant qui on se trouve, ou peu importe, parce que l'argument, en fait, laisse complètement de côté l'idée de qu'est-ce qui pourrait motiver effectivement à obéir à ce devoir moral-là. L'argument est simplement un peu est simplement fondé justement sur quelque chose comme la reconnaissance de la dignité de la personne devant qui on se trouve et l'impératif en fait de a priori avoir une attitude positive par rapport à cette personne-là. Donc ça semble assez en fait dans les deux cas qui sont présentés à la limite justement ça me semble problématique. En grande partie pour ce que t'as mentionné, c'est qu'on peut faire complètement abstraction ou à peu près de la confiance comme étant soit un élément motivateur ou un élément justement qui a un impact réel ou qui peut permettre d'expliquer ou de mieux comprendre en fait la relation dans laquelle se trouvent les agents.
Juste corriger, parce qu'il me semble que dans la question de la confiance morale, je peux à la rigueur comprendre la motivation, je peux comprendre l'aspect, disons... l'obligation qu'il y a à l'égard de la personne à qui on fait confiance, parce qu'à partir du moment où je fais confiance à quelqu'un, je lui accorde un pouvoir.
Oui, oui.
Donc c'est le simple fait de lui accorder un pouvoir, la charge d'une certaine obligation. Bon, maintenant on peut ne pas être d'accord, mais on pourrait disons, tabler sur le fait que simplement d'accorder ma confiance me met en situation, disons, hiérarchique inférieure par rapport à la personne à l'égard de laquelle je fais confiance. Mais ça ne m'explique pas, en revanche, je n'arrive encore pas à comprendre qu'est-ce que l'obligation morale de faire confiance et quelle serait cette motivation en tant que telle. Parce que qu'il y a un devoir, une fois que la confiance m'est accordée, de respecter cette confiance, ça, intuitivement, je peux le comprendre, une espèce de manière prima facie, mais en revanche, la motivation initiale à faire confiance, celle-là, on ne la voit pas. Donc ça me semble poser problème. Mais moi, j'aurais du mal avec l'idée selon laquelle ta critique de la thèse morale, essentiellement, c'est que tu penses en termes d'interaction. Moi, je pense que la motivation, pour qu'on puisse parler de confiance, il faut qu'il y ait l'élément de gratuité. S'il n'y a pas l'élément de gratuité, alors je n'arrive pas à voir en quoi il s'agit vraiment de confiance. Gratuité, c'est-à-dire je fais confiance en toi, mais je n'ai absolument rien à t'offrir en échange. C'est pour ça qu'on dit que je te fais confiance. C'est que je n'ai rien qui me permettrait de contrôler le pouvoir que je t'accorde en te faisant confiance.
Non, tout à fait. En fait, je suis d'accord avec ça. Je parlais d'interaction au sens entre deux individus, mais ça n'avait absolument pas de connotation de possibilité de retour. Sauf dans des cas, justement, où il y a ce qu'on appelle des relations de confiance à double sens, où, par exemple, justement, on se fait confiance mutuellement pour se coordonner pour se donner rendez-vous quelque part ou peu importe. Dans ce cas-là, il y a évidemment, mais je suis tout à fait d'accord en fait que il y a un élément justement de perte de contrôle et de vulnérabilité. On se place volontairement dans une situation de vulnérabilité. De là à dire que ça déclenche en fait un devoir moral particulier qui n'existait pas au préalable, en fait, à partir du moment où on avait conclu une entente, c'est là où je suis incertain. C'est évident en fait qu'il y a un devoir moral de présent. La question que je pose, c'est est-ce que c'est la relation de confiance en fait qui a un impact ou qui déclenche en fait ce devoir moral-là, ou est-ce que ce devoir moral-là était déjà présent et que dans le fond, la seule chose que la relation de confiance fait, c'est de déterminer si oui ou non je vais me mettre dans cette position de vulnérabilité-là par rapport à toi. À partir du moment où j'ai décidé que je te faisais confiance, je fais le premier pas, je tombe justement, comme tu dis, dans une relation hiérarchique inférieure par rapport à toi, mais là, la question de savoir si cette situation-là en tant que telle ajoute un devoir moral envers toi de te montrer digne de cette confiance-là, ou est-ce que c'est simplement que tu m'as promis de ne pas mentir, donc, ou tu m'as promis de ne pas révéler mon secret, donc tu avais déjà tout ce que tu avais de devoir moral existait déjà au moment où on a conclu l'entente et que la confiance finalement n'ajoute absolument rien à la relation. Ça, il faut que je continue de réfléchir à ça.
Oui, mais en fait, la question, c'est peut-être pour une manière de rebondir un peu sur ce point, parce que j'aimerais t'entendre sur ce point de la gratuité. Je ne suis pas certain de comprendre quel rôle tu veux faire jouer à cette notion de gratuité. Je comprends celle de vulnérabilité, mais là, il me semble que si on insiste sur la gratuité, il me semble qu'on va mettre de côté... En fait, c'est trop exclusif comme notion, comme concept de confiance, parce qu'il me semble que ça va mettre de côté bon nombre des relations de confiance que tu avais en tête au départ, peut-être les relations entre patients, médecins, ce genre de choses-là, toutes bref, l'importance de la confiance que tu mentionnais au début. Il me semble que si on insiste sur la notion de gratuité, il me semble qu'on écarte trop de bref, le concept de confiance devient un peu moins important, moins intéressant.
Un peu trop fin. Ouais. En fait...
Par exemple, les actionnaires et les dirigeants d'entreprise, est-ce qu'il y a un moyen de parler de relation de confiance? Parce que dans ce cas-ci, il y a le critère de la vulnérabilité. Les actionnaires se rendent vulnérables, sont dans une relation de vulnérabilité au sens où ils investissent de l'argent, ils investissent des capitaux, mais ils les mettent entre les mains des dirigeants d'entreprise. Donc, il y a une vulnérabilité. Bon, évidemment, on peut être cynique un peu par rapport à la chose, mais c'est vrai, il y a quand même fondamentalement une relation de vulnérabilité. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une relation de confiance? En fait, c'est le cas de bon nombre de relations, les relations qu'on appelle principal-agent, dans lesquelles il y a un principal qui demande à un agent d'agir dans son intérêt. Est-ce que tu les caractériserais? Est-ce que ton approche permet de les caractériser comme des relations de confiance, comme étant des relations où est-ce qu'on peut construire la confiance? J'aimerais t'entendre là-dessus.
Oui, tout à fait. En fait, les relations principal-agent, les relations justement actionnaires, gestionnaires ou peu importe, ça me semble être des relations qui vont être basées sur une confiance qui va être plus ou moins dense ou plus ou moins importante selon les contextes. La gratuité, en fait, j'étais d'accord avec Christian sur l'idée que quand, par exemple, je te fais confiance sur un point, je n'ai absolument rien à, jusqu'à un certain point, te donner en retour. Il y a une relation qui va être à sens unique à partir du moment où je me suis mis dans cette position-là. Évidemment, il y a un paquet de relations qui vont être à double sens, où justement, on va se faire confiance pour peu importe. Donc, pour justement se coordonner. En fait, les cas de coordination sont des exemples assez évidents là, où deux personnes vont accepter de se faire confiance pour arriver à obtenir des bénéfices qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement. Sauf que, il me semble que l'idée de gratuité est quand même intéressante et est quand même présente dans ces cas-là, dans la mesure où, à partir du moment où on a fait confiance et où on s'est mis justement dans cette position-là, on n'a absolument aucun recours ou rien à offrir en fait à la personne entre qui on a remis justement cette confiance-là et entre qui on a mis, en, disons, peut-être en péril ou en tout cas on s'est rendu vulnérable au niveau de notre intérêt. Donc, ça me semble juste en fait de parler de gratuité si c'est en ce sens-là justement qu'on l'entend. Et c'est ça pour les autres types de relations, relations de confiance justement envers des dirigeants, relations de confiance envers des hommes politiques, etc. On a tout à fait en fait ce type de relation-là dans la mesure où la confiance qui est placée en quelqu'un peut ou peut ne pas être respectée ou en tout cas la personne peut ou peut ne pas se montrer digne de cette confiance-là. Donc là où je mets un bémol en fait c'est au niveau de l'incapacité ou de l'incompétence jusqu'à un certain point. Donc, si je te fais confiance pour venir rebriquer le devant de ma maison, c'est ça, je me disais que j'espérais tomber sur un bon point, mais je ne peux pas considérer que tu t'es montré indigne de cette confiance-là, à moins que tu m'aies menti en me disant « Ah, de la brique, pas de problème, je vais te faire ça une journée et demie. » Là, il y aurait eu, justement, tu aurais abusé de ma confiance, mais si c'est simplement moi qui te dis « Regarde, je te donne une carte blanche, viens faire la brique chez nous. » On ne pourra pas considérer qu'il y a eu justement manquement ou que tu t'es montré indigne de la confiance que je plaçais en toi dans la mesure où c'était pas une question de volonté, c'était pas une question de motivation. J'ai simplement fait justement un mauvais choix de candidat maçon.
Oui, j'ai d'abord une remarque un peu générale. En fait, je me demandais quel était le rapport entre les deux théories que tu critiques. Il me semble qu'elles sont compatibles. L'une, en gros, hein, je simplifie parce que l'une te dit on a un devoir moral de faire confiance. Probablement que c'est faux, mais bon, c'est compatible avec l'idée que c'est plus ou moins rationnel selon l'intérêt de chacun de faire confiance. Et donc je me demandais comment on devait comprendre la structure générale de ton raisonnement à partir de là. Quel était exactement le point qu'il fallait retirer pour prendre à la maison
Si Uslaner nous avait dit, par exemple, on a un devoir moral de faire confiance, qui peut être réduit par un ensemble de connaissances qu'on peut acquérir sur une personne. Donc, j'ai un devoir moral de te faire confiance a priori, sauf qu'à partir du moment où j'ai appris un paquet de trucs justement sur des catastrophes d'interaction où justement des gens t'ont fait confiance, mon devoir pourrait disparaître jusqu'à un certain point. Si sa proposition était telle que celle-là, les deux propositions seraient tout à fait compatibles dans la mesure où la rationalité jouerait jusqu'à un certain point un rôle de déterminant de l'intensité de la méfiance qu'on doit avoir envers quelqu'un. Mais a priori, on devrait avoir un devoir, si on ne connaît rien de la personne, on pourrait avoir un devoir de faire confiance à cette personne.
Non, mais même de manière plus forte, on pourrait dire qu'elles sont compatibles. On pourrait avoir un devoir moral à avoir des états mentaux qui sont irrationnels, dans le sens qu'ils n'avancent pas nos intérêts. Okay. C'est possible. Enfin, ça, c'est une remarque. Je voulais revenir sur, pour voir si j'ai bien compris, il me semblait qu'il y avait une réponse à ce point-là, sur un des arguments que tu avançais contre la deuxième théorie. Tu disais, on n'a pas la garantie que la personne en face de nous va coopérer. Mmh. OK, mais on pourrait reformuler la théorie en disant, mais il y a une forte probabilité qu'on peut détecter peut-être en observant certaines choses dont on n'a même pas conscience, qu'il y a coopération, et à ce moment-là, c'est rationnel de... Et on a une théorie qui paraît plus solide, en tout cas, qui échappe à cette objection.
Tout à fait. En fait, sur le premier point, si j'ai bien compris la question, en fait, on pourrait prendre cette voie-là si on était convaincu de la valeur de l'idée de confiance comme devoir moral. Et là, on pourrait dire, par exemple, même si dans certains cas, c'est complètement irrationnel, on peut quand même considérer que, justement, même si c'est irrationnel, on a un devoir de le faire. Sauf que, à la limite, si j'ai le choix entre choisir l'idée plus intuitive de confiance comme étant un barème ou une façon de jauger en fait les risques concours en interagissant avec quelqu'un, ou de choisir plutôt l'option normative, de dire il y a justement un contenu normatif à la confiance. Je préfère en fait la première option, et donc ça m'évite d'avoir à pousser cette option-là.
Je pense que les deux théories sont fausses, donc j'ai des problèmes.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Surtout celle-là, en fait, je trouve ça particulièrement étrange. Pour ce qui est de la deuxième, tout à fait, en fait, une des choses qui pourrait justement mettre à mal cette idée-là, c'est parce qu'en fait, il y a deux écoles qui présentent des résultats de recherche justement sur notre capacité à déceler certains petits traits, etc. Il y a entre autres un livre de Robert Frank où il rapporte en fait des résultats qui sont tout à fait renversants, où justement, d'une part, les gens sont excessivement efficaces à déceler ces petits signaux de sincérité-là ou de manque de sincérité-là. Et surtout, en fait, d'autre part, il rapporte la difficulté, en fait, généralement, ça tourne autour de 9 personnes sur 10 qui ne sont pas capables d'imiter ces genres de signaux-là. Donc, ça nous donne vraiment des connaissances qui soient inconscientes ou conscientes, nous donne des connaissances qui pourraient amener justement la certitude suffisamment près là, de... en fait, qui pourraient amener notre attente qu'autrui ce monde digne de notre confiance, suffisamment près de la certitude pour qu'on puisse parler de choix rationnel. Malheureusement, et le problème, c'est qu'il y a aussi une autre école, justement, d'économistes qui font des expériences en économie expérimentale, qui, eux, en fait, rapportent des résultats complètement différents et qui, généralement, tournent autour de 50 % 52 % ou 54 % de notre capacité à déceler ce genre de signaux-là. Donc, en fait, on n'est pas loin du pile ou face. Donc, c'est assez difficile, en fait, de situer qui a raison, vu le très faible nombre d'expériences qui ont été faites jusqu'à présent. Sauf que si on arrivait justement à développer ces connaissances-là et arriver à démontrer qu'on est justement particulièrement efficace, je serais tout à fait d'accord avec toi. Et là, en fait, la rationalité de nos interactions deviendrait, pas évidente, mais ça deviendrait tout à fait rationnel, en fait, dans la plupart des cas, à moins que les risques soient démesurément grands, qu'il y en ait de notre vie ou de la vie de quelqu'un qu'on aime. Mais dans des interactions quotidiennes, en fait, ça deviendrait tout à fait rationnel vu le faible risque de s'engager dans ces relations-là. Le doute que j'ai, en fait, c'est que probablement que la vérité doit se situer quelque part entre les deux. J'ai de la difficulté à croire qu'on a une efficacité redoutable, en fait, à déceler le moindre petit signal. Et j'ai de la misère aussi à croire qu'on est complètement incapable de déceler ces signaux-là. Donc, j'ai l'impression qu'on ne se rapprochera pas suffisamment de la certitude pour parler de relations de confiance rationnelles, c'est-à-dire qui nous promettent des bénéfices. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même suffisamment avancé et dépassé le point du choix complètement aléatoire pour pouvoir parler de risques quand même réduits entrer dans des relations de confiance.
J'ai une question. C'est peut-être que j'ai mal compris une certaine partie de ta présentation. Tu faisais une distinction entre attente légitime et confiance. Et tu disais que les confiants, là où il y a des attentes légitimes, c'est pas de la confiance. Mais est-ce que là où il y a de la confiance, c'est pas des attentes légitimes? Est-ce que pour décrire la confiance de manière authentique, il faut qu'il n'y ait pas d'attente légitime? Et là, ça me paraîtrait assez problématique. J'essaie de comprendre de quelle est vraiment la vraie distinction entre attente légitime et confiance. Parce que le cas du médecin que tu as donné, tu dis on a des attentes légitimes à propos de ses compétences, tandis qu'on peut avoir confiance qu'il va mieux nous prendre soin de nous parce qu'on a comme cette relation. Mais encore là, c'est des attentes légitimes basées sur des rapports que j'ai eus avec lui ou est-ce que... Comment est-ce qu'on décrit...
En fait, la terminologie est peut-être pas bonne, puis ça, c'est un très bon point. En fait, l'idée, c'est que dans certains cas, la relation de confiance est complètement inutile à permettre l'interaction parce qu'on a des intérêts qui vont directement dans le sens de la personne devant qui on se trouve. Donc, dans certains cas, justement, si on sait que, supposons que le Collège des médecins était d'une pugnacité incroyable et qu'ils étaient omniscients, ben, on pourrait en fait avoir des attentes légitimes quant à les soins de santé qu'on peut recevoir. Et c'est par attente légitime, en fait, c'est ça, il y a différents termes qui sont utilisés dans la littérature qui font toujours référence à quelque chose d'un peu différent. Ce que j'essayais d'exprimer par ce terme-là, en fait, c'est quelque chose comme des attentes rationnelles, en fait. Donc, on est dans une situation de quasi-certitude vu la connaissance qu'on a des intérêts d'autrui, de sa motivation, en fait, à agir d'une façon qui va aller complètement dans le sens de ce à quoi on s'attend. Et donc, c'est à ce niveau-là, et la confiance serait quelque chose de différent dans la mesure où, justement, la relation de confiance est nécessaire pour pallier à cette incertitude-là ou à cette ignorance des motivations ou des incitatifs ou des intérêts de la personne devant qui on se trouve. Donc, je pense que tu as raison, en fait, qu'il faut que je clarifie ça et, entre autres, que je me débarrasse du terme « attente légitime » parce que, à partir du moment où je fais confiance à quelqu'un, je dois avoir quelque chose comme des attentes légitimes dans la mesure où, justement, c'est ça. Si c'était complètement sorti de nulle part et que je demandais quelque chose d'insensé à quelqu'un, j'aurais pas ce type d'attente légitime, alors que si je te fais confiance pour un truc assez banal, je vais avoir des attentes légitimes envers toi de te montrer digne de cette confiance-là. Et je pense que, en effet, j'ai un problème terminologique dans ma distinction.
Je vais me donner le droit d'intervenir à ce stade-ci parce que c'est, en fait, c'est la continuité de... Je me demande, si on regarde les rapports sociaux dans une société moyennement complexe, dans laquelle on est pris dans des structures d'incitatifs qui sont quand même relativement denses et encombrants, dans quelle mesure le concept de confiance garde une place importante pour l'analyse des rapports sociaux? Je veux dire, je peux pas, j'essaie d'y penser, et il faudrait, quand on pense à nos institutions, hein, toutes les relations que j'ai à l'intérieur d'institutions, je peux pas dire qu'il y a vraiment de la confiance parce qu'on a tous des pénalités, des sanctions positives et négatives associées au fait d'agir comme les gens voudraient qu'on agisse, nos étudiants, nos supérieurs, nos collègues, etc. Même dans des rapports qui sont plus moins institutionnellement denses, il y a le fait de la répétition. Hein. Mon boulanger ne va pas me donner du moins parce qu'il sait très bien que le 50 cents qui va se faire en ne me donnant pas le change exact, il va plus que le perdre en perdant ma clientèle si jamais je le découvrais. Donc, en fait, si toutes ces choses-là, ce sont des cas d'attente légitime. Je me demande s'il y a encore... où est la confiance? Et quel est son... Moi, pour afficher mes couleurs qui sont publiques, publiées, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même des phénomènes intéressants du côté de la conception plus hardinisante. Là, parce que si on veut vraiment délester la confiance de tout élément d'attente, elle est pas... Tu sais, c'est peut-être la... Même pas, j'allais dire, la confiance d'un enfant pour ses parents, mais la DPJ. Donc, tu vois où je m'en vais?
Oui.
Le micro s'en va vers Yoa qui attend son tour.
En fait, je suis d'accord avec tous sur le point que la confiance est beaucoup moins, si on accepte justement ces distinctions-là, qui sont, somme toute, en fait, très intuitives. C'est pas... La confiance est beaucoup moins centrale, en fait, à justement toutes les interactions, toutes les relations de coopération dans lesquelles on se trouve. Sauf que, en fait... Même s'il existe un paquet d'institutions, un paquet de justement d'incitatifs positifs, négatifs, etc., il demeure quand même toujours une zone où on va toujours être dans le flou et dans le noir, en fait, par rapport au comportement de nos élus, par rapport au comportement de, justement, même je parlais tout à l'heure de conjoint-conjointe. Dans la vie de tous les jours, en fait, la plupart des comportements, on ne parlera même pas de confiance, en fait, on est assuré ou on est certain, en fait, que notre conjointe va agir d'une façon tout à fait adéquate, disons. Mais il y a quand même des moments où il va y avoir... Moi, je suis peut-être plus chanceux que d'autres. Mais il va toujours, en fait, rester, justement, ne serait-ce qu'une partie, en fait, des relations qui va toujours être basée sur une ignorance relative, en fait, de...
Est-ce que ce serait la limite? Est-ce que ce serait, disons, qui va... la distance entre l'adéquat et le plus qu'adéquat. En plus, les attentes légitimes sont suffisantes pour nous assurer de l'adéquation du service.
Mais en fait, les attentes légitimes vont permettre de régler un paquet de types d'interactions. Mais justement, par exemple, l'infidélité, ça me semble être quelque chose qui est sorti un peu de ce qu'est un couple dans la vie de tous les jours, donc qui va s'adonner et qui va respecter les attentes qu'on a l'un envers l'autre. Ponctuellement, il semble pouvoir justement souvenir des événements comme celui-là qui n'ont rien à voir avec justement la vie quotidienne, tout comme justement, je sais pas, des accès de colère ou peu importe. On peut être tout à fait posé, etc., et avoir un accès de colère éventuellement qui va justement aller à l'encontre de la confiance peut-être que quelqu'un va placer en nous, qui viendra pas tout remettre en question, en fait, la relation dense dans laquelle on se retrouve.
Mais là, je vais juste donner dans la chose. Ouais.
Vas-y, vas-y.
Parce qu'au fond, ta solution au problème là, de quand tu as bouclé la boucle, c'est de dire non, excuse-moi, oui, mais... quand on revenait au problème de qu'est-ce qu'on fait dans des sociétés multiculturelles où il semblerait que l'étendue de la diversité pose problème du point de vue de l'étendue de la solidarité. Toi, ta solution consistait en quelque sorte à déconfiantiser la relation. On aurait pu penser qu'une chose pour quelqu'un qui est partisan de la confiance serait de doter la science, parce que ce mot existe, des différences et, par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est pas vraiment n'importe quoi, de donner à tout nouvel arrivant qui arrive au pays un chandail des Canadiens de Montréal pour faire de sorte que, par-delà nos différences visibles, il y a une communauté qui saute aux yeux et qui pourrait faire. Mais c'est pas ça que t'es, c'est pas vers une solution de ce type, pas celle-là. Mais c'est pas vers une solution de ce type que t'es allé. C'est plutôt vers une solution qui avait tendance à déconfiantiser, à dire en quelque sorte aux gens, écoutez, là, on va mettre des mécanismes en place qui vont faire que d'éventuels resquilleurs ne pourront pas resquiller.
En fait, justement, c'est la solution que j'avais préconisée parce que je voyais pas justement cette distinction-là qui était faite. Pour l'instant, je pense que c'est important de maintenir justement un niveau de confiance qui pourrait passer, entre autres, par une méthode toute simple de destruction de certains stéréotypes par la publicisation de justement certaines statistiques liées à l'abus fait justement par les nouveaux arrivants de certains systèmes de qui sont absolument ridicules et probables et en tout cas de...
L'absence d'abus.
Non, c'est ça. Oui, l'absence d'abus. Non, le niveau est ridiculement bas et tout à fait comparable avec celui de à peu près n'importe quelle communauté. Ce qui pourrait, en fait, si la théorie, si la compréhension que j'ai de ce qui détermine le faible niveau de confiance est bonne, ce qui pourrait avoir un impact tout à fait positif, en fait, dans le niveau de confiance généralisé, parce que c'est assez fascinant, en fait, justement, les études portent surtout sur des cas étudiés aux États-Unis. Et la relation, en fait, blanc-noir, quand les Noirs sont majoritaires sur un territoire, l'absence de confiance totale envers la communauté blanche et inversement dans les communautés majoritairement blanches, c'est fascinant et ça a été justement récupéré évidemment par la droite, entre autres un livre fascinant de Gillens qui s'appelle « Why Americans Hate Welfare ». Où il démontre en fait comment la place de plus en plus importante à partir de la crise occupée par les Noirs, vus comme des gens pauvres, des gens qui coûtent très cher au système, etc., comment ça a été martelé par la droite pour justement justifier des coupures dans le système social. Et donc, à ce niveau-là, je pense que justement, quelque chose comme de l'éducation, même si ça peut avoir l'air ça me semble en fait une première place à où intervenir de façon excessivement importante et rapidement pour éviter justement qu'on stigmatise et que ces stigmatismes-là ou ces préjugés-là s'amplifient et demeurent là, pendant des années.
Oui, ben merci David, parce que je pense que tu réponds en partie à la question que j'avais envie de te poser initialement et qui, je pense, recoupe un peu les préoccupations de Martin et de Daniel rassemblées. Mais enfin bref. C'est que, oui, c'est ça. Donc, il y avait l'idée, tu pars avec l'idée qu'il faudrait définir une notion de confiance qui ne pourrait pas se réduire à une conception de la rationalité instrumentale, sans quoi, en fait, on c'est pas vraiment de la confiance, on a besoin, c'est une notion de trop pour pouvoir, voilà, etc. Mais à travers certains exemples que tu prenais, j'avais l'impression quand même que, par exemple, tu parles du dilemme du prisonnier. Tu parles du fait qu'à partir du moment où il est itéré, par exemple, on parle d'attente légitime, mais encore une fois, c'est une façon de distinguer un certain processus de la notion de confiance comme telle. Tu ne veux pas réduire la notion de confiance à ses attentes légitimes. Donc, par exemple, dans un dilemme du prisonnier, premier coup, un seul, quand on prend l'avion avec un pilote dont on n'a jamais entendu parler, etc., il semblerait qu'il y ait un acte de confiance dans ce contexte-ci. Mais pour reprendre, je ne sais plus qui dit, si c'était Martin ou si c'était Daniel qui parlait de ça, le faire confiance au pilote d'avion, encore une fois, je ne suis pas certaine que ce soit une illustration exemplaire de ce phénomène de confiance, dans la mesure où ce n'est qu'un épisode dans une institution informelle ou formelle qui consiste à accréditer dans les lignes de compagnie aérienne le certificat de pilotage, etc. Quand tu embarques dans un avion, ce n'est pas tellement une relation intersubjective de moi face au pilote, mais moi face à l'institution de cette compagnie aérienne, etc. Et il y a effectivement des compagnies aériennes, comme il fut une époque où le Korea Airlines, par exemple, ne suscitait pas grande confiance parce qu'il y avait toutes sortes de ratés dans la procédure par rapport à d'autres compagnies aériennes. Tu vois, alors ça, je ne comprenais pas dans quelle mesure tu voulais prendre cet exemple pour illustrer quoi exactement. Okay. Et puis, il y avait l'autre exemple sur lequel tu aboutis à la fin, le système de santé ou n'importe quel système de service social, de sécurité sociale. Parce que c'était très intéressant, en fait, de nous expliquer pourquoi tu t'intéresses à la notion de confiance et pourquoi tu avais l'impression d'avoir commis une erreur que tu tentais de corriger. Et là, quand tu décris le fait que, par exemple, dans la première version que tu donnais de ce papier, quand tu disais le fait qu'on manque de confiance envers certains groupes de la population qui pourraient passer pour des abuseurs du système de chômage ou de sécurité sociale ou de santé, etc., je me demandais encore une fois si c'était une bonne exemplification de ce phénomène de confiance dans la mesure où, encore une fois, le fait de contribuer à un système de santé ou à un panier de services essentiels comme le chômage, etc., tout ceci peut encore, une fois, être compris selon la théorie des jeux, là, selon le schéma du schéma assurantiel, le jeu de l'assurance du schéma assurantiel. Si le schéma assurantiel fait défaut, si la modélisation du type de coopération ici fait défaillance, dans ce cas-là, ça peut s'exprimer dans des épiphénomènes comme la méfiance, les préjugés, etc. Mais c'est peut-être en bout de ligne, encore une fois, un défaut, une défaillance du système, d'une institution. En quel cas, dans ce cas-là, je me demandais, premièrement, tes exemples illustrent plutôt un modèle de rationalité instrumentale, mais tu veux dégager justement une notion de confiance. Puis là, finalement, j'étais un peu confuse.
Oui, OK. En fait, évidemment, il y a des institutions qui régissent et qui contrôlent en bonne partie la plupart des interactions, en fait, qui vont se produire. Sauf que, à moins d'avoir justement une efficacité total de ces institutions-là, il demeure toujours, en fait, une espèce de latitude laissée aux individus. Et il demeure toujours aussi la possibilité que, par exemple, justement, bon, ben, les bavures policières ne sont pas vraiment punies, les médecins qui ont des comportements complètement inacceptables se voient à peine réprimandés, etc. Donc, il y a évidemment, par exemple, justement, pour les pilotes, des institutions qui contrôlent, qui s'assurent que ces personnes-là sont justement compétentes, vont avoir idéalement, ou en tout cas autant qu'on puisse avoir, les bonnes motivations, etc. Cependant, il va toujours rester une possibilité, justement, pour l'abus, pour justement les petites déviations par rapport au droit chemin, par rapport à certains comportements qui vont être déviants, pas complètement déviants parce que, justement, contrôlés par certaines institutions, mais il va quand même toujours rester une place pour l'abus, pour justement le comportement indésirable. Et dans cette mesure-là, on va toujours nécessairement avoir justement une place pour la confiance. Donc même si on est convaincu que, par exemple, en fait, si on était convaincu, par exemple, justement, que le gouvernement est impeccable à punir, à tout d'abord prendre les gens qui abusent du système, peu importe quelle soit leur identité, et à les punir d'une façon qu'on considère comme étant adéquate, cette confiance-là envers les contribuables ou envers les bénéficiaires ne serait plus pertinente, dans la mesure où la seule confiance qui serait à partir de ce moment-là pertinente serait la confiance envers l'institution qui garantit les comportements adéquats. Encore une fois, l'adéquation. Cependant, c'est ça, je pense pas qu'on peut avoir des institutions qui vont arriver à ce niveau-là d'efficacité et qui vont être capables de transformer tous les abuseurs ou toutes les personnes qui sont susceptibles de se montrer indignes de la confiance placée en eux et de les ramener justement dans un comportement qui va être jugé correct.
Mais encore une fois, dans ta présentation, tu ne veux pas réduire non plus la notion de confiance à un simple devoir moral qu'on exemplifie. Tu veux pas ça. Tu veux pas prendre cette route-là.
En fait, c'est que ça me semble complètement... Il y a quelque chose de fascinant, en fait, avec le concept de confiance, et je trouve qu'on le perd quand on le taxe ou qu'on on l'associe à un devoir moral. Ça semble être vraiment un mécanisme psychologique où on se retrouve dans une situation où on n'a pas de garantie que les bénéfices vont découler de cette interaction-là. Mais pour un paquet de raisons, explicables ou non, en fait, on a un désir, en fait, on a la volonté et la motivation d'aller de l'avant. Et ça me semble justement quelque chose de particulièrement intéressant dans justement des rencontres entre étrangers, dans des contextes justement où on a beaucoup à perdre. Les gens, on observe en fait des comportements qui, malgré tout, les gens font confiance à quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré, etc. Parfois, il y a des chauffeurs de taxi qui posent problème. Mais, et donc, j'ai envie de garder ce côté très, très complexe qui n'a rien à voir, à mon sens, avec un devoir moral. Et la raison pour laquelle je dis que c'est très intuitif, c'est que quand je m'en remets au cas que je connais le mieux, en fait, de personne qui fait confiance, c'est-à-dire à moi-même, je me sens aucun devoir de faire ou de ne pas faire confiance. Je me sens un certain devoir quand quelqu'un a placé sa confiance en moi, mais un devoir de faire confiance, j'ai absolument pas ça. En fait, je vois plutôt justement la confiance comme un mécanisme qui a pu évoluer, en fait, pour devenir quelque chose de très, très, très utile pour se prémunir d'interactions problématiques et pour nous permettre de, justement, discriminer entre les abuseurs et les gens qui sont des personnes sincères et honnêtes.
Est-ce que c'est une prédisposition psychologique qu'on peut éduquer?
C'est ça, en fait. Là, je commence à me lancer dans tout ce qui est études, donc le cognitive science et autres trucs qui portent sur des trucs vaguement reliés à la confiance. Justement, les études empiriques sont très, très peu nombreuses. Et généralement, tout ce qu'on a, on n'a aucun commentaire qui est fait sur les résultats. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met des personnes dans une situation où il y a une relation de confiance qui doit être établie et on rapporte les résultats. Et le problème, c'est que, comme c'est le cas pour les dilemmes du prisonnier, on va dire les gens agissent de façon très bizarre, en fait, et très imprévisible dans la mesure où ils coopèrent beaucoup plus qu'on se serait attendu, sauf que les bénéfices sont de 10 sous ou 15 sous à chaque fois qu'on coopère. Donc, c'est difficile de dire la relation de confiance quand on a 25 sous à perdre. C'est difficile de voir vraiment là, un rapport entre ce type de relation de confiance-là dans un lab et de le lier en fait à des relations de confiance dans la vie de tous les jours où il y a de réels enjeux en fait qui peuvent être présents. Mais donc je resterai oui en deçà de tout ce qui est devoir moral au niveau de la confiance et probablement que oui en fait c'est un mécanisme psychologique qui peut être éduqué parce que il fait aucun doute en fait qu'il y a des aspects cognitifs dans la confiance en fait. On va faire plus ou moins confiance à certaines personnes. Justement, c'est un exemple dont je parlais à Daniel tout à l'heure. On a mis des gens de collèges américains différents dans des interactions où certains portaient des t-shirts de leur université d'attache et le niveau de confiance entre personnes portant des t-shirts d'université concurrente était incroyablement bas. Donc, dans certains contextes, c'est une variable qui semble être pertinente. Et donc, c'est un peu surprenant. Et ça permet, en fait, d'expliquer comment, justement, des différences identitaires liées à la culture, à l'origine ethnique ou peu importe, peuvent avoir une importance aussi grande. C'est lié, à la limite, à des variables qui sont très, très peu significatives, mais dans un contexte particulier qui permettent de distinguer le in-group et le out-group. Là. Donc,
I actually have a question, a very short one, and it's largely to do with the fact I actually still have no idea what trust really is. So is trust epistemic or is it dispositional?
Yeah.
That's very short.
Yeah, yeah. Non, je crois pas que c'est une disposition. Je crois que certaines personnes vont être, disons, plus susceptibles de faire confiance, vont avoir peut-être... À ce moment-là, on parle de disposition justement peut-être un peu plus développée, mais je crois pas que c'est une disposition parce que justement, c'est le caractère conditionnel en fait de la confiance qui me semble lui donner tout son attrait en termes en tant que concept dans les interactions sociales. Donc, c'est probablement plus près de d'une relation épistémique ou mais en même temps, je pense que c'est ça. Je crois qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles de faire confiance que d'autres. Il y a des gens qui sont plus méfiants que d'autres, mais qui vont quand même faire confiance dans certains contextes, dépendamment de certaines informations obtenues sur la personne avec qui on entre en relation de confiance. Donc, j'ai l'impression à la limite que c'est un peu une disposition en partie, mais qui dépend énormément justement du type de connaissance ou du type d'information dont on dispose dans le contexte où on se trouve.
So, can I follow up on this? Yes. Yeah, the answer is yes. So I trust that was the real answer. Because the reason, I mean, because the reason I put my hand up, because I had the same question Martin had in the beginning. I was really, really confused about the legitimate expectation versus trust thing.
Yeah.
And especially if this is, I mean, one of the ways of interpreting what you said before is that to some extent this is the disposition, trust could be a disposition on how to deal with epistemic uncertainty, given that we have an interest in certain expectations. If that's the case, then is trust really a different category from expectations, really? I mean, this is where, to me, it gets confusing. Mm-hmm. And a sort of a related point, but something which I think it's something else that comes to me, but it's very much tied to this. It's one thing to say that, well, we can say a lot about trust and about certain normative, for example, how it impacts on normative expectations and so on and so forth, and what sort of things that generates in terms of how society fares, how we fare, how our relations fare. It's a very different thing. We then think about the purely motivational background of this. So it's kind of sort of, you know, extrinsic versus, sort of externalism versus internalism debate partly. And especially, I mean, you mentioned Robert Frank, and of course, one of the things that you could argue is that, well, perhaps there's a lot of this is hardwired. Ernst Fehr and these guys, of course, come up with all these studies saying that to some extent, our disposition to do this is partly hardwired, and then, you know, but it's all mediated through social structures and so on and so forth. At which point we can impact, and at which point we can have debates about what's the best way to do this. But so to some extent, I guess the two confusions I have is whether we should not more separate the motivational and the sort of, you know, the outcome normative one. And secondly, I'm still confused about if this is epistemic, mm-hmm. then how this really ties into the expectations and what. So ultimately, I still don't know what trust really, really is.
Yeah.
So sorry.
Did you hear that paper again?
Yeah. So I mean, I'll start over.
I know. I'm kind of wondering whether I just missed.
No, no.
The language, or whether I'm generally stupid, or both. They're not mentioning it's possible, unfortunately. Yeah, it's so. Especially on a day like today.
Mais le concept de confiance, en fait, plus on lit sur la confiance, moins on sait ce que c'est, parce que c'est tellement un concept qui est intuitivement présent dans un paquet de considérations, dans un paquet. Exactement. Et c'est ouais, c'est exactement. Et donc, ça devient excessivement difficile de justement déterminer ce que c'est. Une chose que ce n'est pas, selon moi, c'est un concept normatif, en fait. C'est ça, je laisserais ça complètement de côté et j'irais beaucoup plus. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'aspect psychologique, en fait. Donc, justement, est-ce que la confiance est liée à des émotions? Est-ce que c'est vraiment un aspect purement épistémique? Est-ce que... Non, c'est pas incompatible, mais je veux dire, est-ce que justement ce serait uniquement orienté sur l'acquisition de connaissances, ou justement c'est un mélange des deux, ou c'est justement lié à une disposition? Est-ce que des gens mis dans des contextes différents vont avoir un niveau de confiance plus élevé que d'autres, justement, dans les mêmes contextes? C'est à ce niveau-là, en fait, là, que je suis rendu pour... Donc, j'ai travaillé un peu à rebours, en fait. J'ai travaillé, donc, la confiance dans des contextes sociaux. Maintenant, la confiance en termes, justement, la définition conceptuelle, etc. Et je dois maintenant plonger dans les méandres de la psyché humaine pour aller voir comment tout ça s'articule. Et donc, j'ai feuilleté rapidement tous les trucs de Fair. Ostrom a écrit quelques trucs aussi. Et donc, il faut que je m'abreuve de ces textes-là un peu plus là, pour pouvoir avoir un point de vue plus éclairé, parce que pour l'instant, ça demeure purement intuitif et ça n'a rien à voir avec justement des données empiriques sur le domaine. Merci.
Dernière petite intervention, juste pour tester ton affirmation, tu dis que ce n'est absolument pas un concept normatif.
Ouais.
Alors, une société où les gens ont plus confiance et une société où les gens ont moins confiance en nous. Ou même prendre une société où les gens ont vraiment confiance puis une société où les gens n'ont absolument pas confiance en nous. Est-ce qu'il y a une différence morale entre les deux?
Une différence morale, je pense pas.
Non?
Oui, mais pour une société, il y a plus de plaisir puis une autre, il y a moins de plaisir.
Ouais.
Ça veut pas dire que le terme plaisir, tu peux le considérer comme normatif ou non.
Je pense que tu as raison sur un point, c'est que probablement qu'une société dans laquelle il y a plus de confiance... Non, je ne répondrai pas à ton mauvais test. Mais non, mais en fait, un point sur lequel je serais porté à être d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression qu'une société dans laquelle il y a plus de confiance va avoir une autre différence, en fait, qui va permettre cette confiance plus grande-là, et cette différence-là pourrait avoir une importance normative. Entre autres, une des choses que je suis venu à croire, c'est que les échanges, en fait, l'interaction et la délibération ou juste la quantité de rencontres, en fait, avec des gens de différents quartiers qu'il y a sur des territoires géographiques, est assez déterminant, en fait, du niveau de confiance généralisé qu'il va y avoir sur ce territoire-là. Donc, plus les gens sont, justement, vivent dans une communauté où il y a énormément d'échanges, etc., ouverte, où il y a peu de préjugés, où il n'y a pas de cloisonnement, soit ethnique ou peu importe, il y a un niveau de confiance qui est plus élevé. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait considérer qu'il y a nécessairement quelque chose de moralement valable dans la communauté où il y a plus de confiance, mais je pense pas que c'est le fait qu'il y ait plus de confiance en soi, en fait, qui donne une espèce d'avantage moral à la communauté.
Merci. Moi, je voudrais savoir la place de la confiance dans nos relations aux autres. Est-ce que la confiance est-elle un préalable à nos relations ou alors elle se construit au fil de nos relations? Parce que j'ai le sentiment que quand ça varie selon la personne à qui on s'adresse, quand la relation est interpersonnelle, c'est difficile de faire confiance tout de suite. J'ai l'impression que dans cette relation, c'est plus de précautions que de la confiance. Quand c'est un système ou une institution, par exemple, quand j'utilise ma carte de crédit, je m'adresse directement à un système, j'ai le sentiment que la confiance est déjà là. Quand je m'adresse à une institution, c'est valable. Mais quand c'est une relation de personne à personne, j'ai le sentiment que la confiance se construit plutôt, qu'elle n'est plus, n'est-ce pas, un préalable, mais plutôt un résultat.
Oui, tout
alors,
à fait.
Je voudrais avoir votre avis là-dessus.
En fait, ça coïncide avec plusieurs justement, études qui ont été faites justement sur comment se développe la confiance dans des organisations, entre autres dans des entreprises. Et on remarque en fait que généralement, la confiance va débuter par des petites interactions absolument banales et sans importance et qu'au fur et à mesure, en fait, on va commencer à mettre un peu plus de... On va jouer un peu plus gros en fait dans les interactions, de façon à tester jusqu'à un certain point la dignité de confiance. Il n'y a pas vraiment de terme en français, mais justement le fait qu'une personne soit plus ou moins digne de confiance. Et justement, je suis tout à fait d'accord avec vous que ça se développe d'une façon dynamique et que justement, ce n'est pas quelque chose qui est là préalablement à, une relation. Cependant, je pense qu'il existe toujours quelque chose comme... une volonté, ne serait-ce que minimale, à faire confiance justement pour, justement, je dis beaucoup justement, mais dans des relations qui ont très, très peu d'importance et parce que quand on a très peu à perdre, en fait, on a quand même beaucoup à gagner et ne serait-ce qu'en termes de coût psychologique de devoir dire à quelqu'un pour une banalité, j'ai pas confiance ou je refuse cette interaction-là, etc. À la limite, les coûts sont plus élevés que simplement de s'engager dans la relation. Si on perd, on perd. Et c'est pas plus grave. Mais je serais plutôt du côté, justement, de développement organique ou développement dynamique, en fait, des relations de confiance, là, plutôt que d'un donné préalable à la relation.